Nous sommes mercredi 15 janvier 2020. Merci d'écouter le programme de Studio Kalungu. Tout de suite, le journal en français, c'est dans une présentation de Nafis Adam Sirfou. Les titres de ce journal: manque de matériel d'accouchement à la maternité de Baleyara, région de Tillabéri, qui enregistre plus de 100 accouchements par mois. Le cri de cœur de la sage-femme de cette maternité dans ce journal. Début ce matin de la session de la cour d'assises de la région de Diffa, 18 cas seront jugés, dont des meurtres. Dans le magazine d'aujourd'hui, le directeur du Fonds de solidarité islamique pour le développement parle des actions que mène son institution au Niger dans le domaine de l'éducation. Bonsoir à tous et bienvenue. Plus de 100 accouchements par mois, c'est un chiffre des agents de santé de la maternité de Baleyara, commune rurale de Tagazar, dans la région de Tillabéri. Mais selon la responsable de cette maternité, la structure de santé manque cruellement de matériel et les femmes accouchent à même le sol. Écoutons le cri de cœur de Madame Abdulsalam Mariama, sage-femme à la maternité, au micro de Hassan Moumouni. On n'a qu'une seule table d'accouchement adéquate et opérationnelle ici à la maternité. L'autre est toute rouillée. Dans les salles de repos, les lits sont insuffisants et ne sont pas équipés de bons matelas. D'autres lits n'ont même pas de matelas. C'est pourquoi nous demandons à toute femme qui vient accoucher ici de venir avec un plastique pour recouvrir le lit, car il y a des risques d'attraper une infection. Par mois, nous avons environ 100 femmes qui viennent accoucher ici, mais la majorité sont installées par terre par manque de lit. Concernant les matériels, nous n'avons pas de tensiomètre, nous n'avons pas de chaises et beaucoup d'autres choses manquent. C'est pourquoi j'en appelle à toutes les bonnes volontés, qu'elles soient de Baleyara ou d'ailleurs, de doter notre maternité de matériel adéquat pour l'accouchement. Les autorités du département de Bermo de la région de Maradi ont réceptionné hier mardi une maternité et un important lot de produits pharmaceutiques à Oursena, commune rurale de Gadabéji. Selon le maire de Gadabéji, ce centre de santé va soulager la population de Oursena qui consulte à Gadabéji, situé à 15 km. Écoutons Mahamad Nawane, maire de Gadabéji, au micro de Mourou Adam.
Nous venons de construire une maternité au niveau de la cadre de santé de Oursena dans le but de la transformer en CSU de type. Donc, en lien avec la direction départementale de la santé de Bermo, compte tenu du fait que la commune de Gadabéji ne dispose que d'un seul CSI qui est au chef-lieu de la commune, malgré le vaste étendue de la commune, donc on s'était convenu de voir comment est-ce qu'il faudrait réduire le déplacement de nos populations envers le centre de santé. Donc, ce qui nous a amené à Oursena aujourd'hui pour la réception de la maternité, comme je le disais tantôt. Donc, la maternité a coûté à la commune la bagatelle somme de 4 900 000 et nous avons aussi acheté des produits de 1 500 000 afin d'aider ce CSI, afin d'ouvrir un compte pour son premier débit. Mon souhait, c'est vraiment l'usage, surtout aussi la bonne gestion des produits, aussi que nos femmes soient sensibilisées afin vraiment d'accoucher au niveau de celle-ci pour augmenter la couverture sanitaire de notre commune. Parce que la couverture sanitaire de notre commune est très en deçà de la moyenne au niveau du pays.
En bref, le programme Air-Medevac mené par l'Agence européenne de défense qui a démarré ses activités le 1er janvier au profit des militaires belges déployés au Niger va externaliser les capacités d'évacuation médicale aérienne en Afrique et en Europe. Un personnel médical civil doté d'un avion effectuera le transfert des blessés de l'antenne chirurgicale de Maradi, sud du Niger, vers les structures de soins appropriées disponibles dans les pays voisins, essentiellement à Gao au Mali ou au Tchad, voire en Europe si nécessaire. Selon un communiqué de l'Agence européenne de défense repris par FOB, Force Opération Blog. Principal point d'ancrage belge de la région, le Niger accueillera plus d'une centaine de militaires belges en 2020. La grande majorité du contingent continuera d'opérer au départ de Maradi, précise la même source. Deux cas de meurtre, 7 cas de coups mortels, 4 cas de viol, 1 cas d'infanticide. Ce sont des dossiers qu'aura à juger la cour d'assises de Diffa en 10 jours à compter de cette semaine. Des précisions avec Aboubakar Mohamed Nyandou, il est le président du tribunal de grande instance de Diffa.
Pour cette session d'assises, donc les affaires qui seront jugées seront de 16. C'est ce qui est prévu par le rôle. Mais il y avait deux dossiers que la cour d'assises tenue en 2017 avait renvoyé à présente session, ce qui fait un total donc de 18 cas qui seront retenus et jugés par cette session de cour d'assises. Parmi ces 18 cas, il faut retenir qu'il y a 4 cas de viol, dont une tentative de viol, 7 cas de coup mortel, 2 cas de meurtre et 1 cas de tentative de meurtre, et 1 cas d'incendie volontaire des lieux servant d'habitation, 2 cas d'assassinat et 1 cas d'infanticide.
Des propos recueillis par Lawan Boukar. Des réponses africaines aux problèmes africains, c'est l'une des principales recommandations du sommet de la société civile tenu lundi dernier à Pau, au Burkina Faso, avec la participation des représentants de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Serge Bayala, membre de l'initiative Souveraineté, Dignité et Paix pour le Sahel, joint au téléphone par Assoumane China.
Les réponses européennes aux problèmes africains sont inefficaces et pendant 61 ans, ça s'est révélé inefficace. Il faut maintenant que les Africains reprennent le dessus, reprennent l'avance et l'initiative de la réflexion et que nous puissions proposer et produire des réponses africaines aux problèmes africains. C'est là toute notre volonté, c'est là toute notre intention pour dire qu'il est désormais inacceptable par les gens de ma génération que les réponses aux problèmes de notre destin continuent à venir du dehors. Pour dire que l'ère de la colonisation est terminée et notre génération ne supporte plus les relents coloniaux de l'ex colonisateur que fut la France. Et nous voulons ici même, pour nous et par nous, demander à la France que si elle est sincère dans sa coopération, au lieu de nous envoyer des soldats, qu'elle nous cède le matériel de l'opération Barkhane. Ce dont nous avons besoin d'une technologie militaire. Je ne pense pas que nous avons besoin d'hommes pour remplacer nos soldats.
En bref, le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé mardi d'infliger une leçon à l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar. S'il reprenait ses attaques contre le gouvernement de Tripoli, nous apprend une dépêche de l'AFP. Le maréchal Haftar a quitté Moscou sans signer l'accord de cesser le feu accepté par son rival Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen d'Union nationale reconnu par l'ONU. Deux jours après l'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction de circulation des motos dans les départements de Baleyara et Filengué, plus d'une centaine de mécaniciens motos deviennent des sans-emploi, selon Ibrahim Bernard, président des mécaniciens motos de Baleyara, qui a formé la moitié d'entre eux. Cela a de graves répercussions sur leur famille. Il est au micro de Seydi Abdouine Détane.
Ils nous ont entraînés dans une situation inconfortable. C'est sur ce métier de réparation de motos que nous subsistons. Nous ne connaissons pas un autre travail en dehors de ça. Donc si la circulation des motos est interdite, nous restons dans le désarroi. Quel travail allons-nous faire? Nous n'avons que ce métier que nous pratiquons. Si cela perdure, même l'assurance de la souveraineté familiale nous sera difficile à garantir. Cela fait 10 ans que je pratique ce métier. J'ai aujourd'hui environ 60 ans. J'ai beaucoup d'enfants et tous survivent à travers ce que je gagne dans ce métier. C'est à travers cela même que certains supportent leur foyer. Donc l'interdiction de la circulation des motos, c'est un goulot d'étranglement de notre survie. Nous ne savons pas comment nous en sortir en dehors de la réparation des motos.
Au Bénin, la fête de Vodou est célébrée chaque 10 janvier. Le Vodou occupe une place très importante dans l'identité culturelle des populations. À cette occasion, vendredi dernier, Fadel Alou a recueilli quelques impressions des Béninois sur cette tradition. On les écoute.
Au Bénin, ici, il y a une liberté de religion. Donc, le 10 janvier, c'est pour les Vodouisans.
Ça fait partie de notre culture. Donc, on doit quand même protéger cette culture-là. La fêter comme cela se doit. Parce que c'est normalement notre fête. Donc, on est né Vodou. Afrique, c'est Vodou. C'est ce qu'on fait. Donc, c'est les Blancs qui ont ramené tout ces christianisme, quoi, là. C'est les trucs des Blancs. Donc, on doit faire pour nous d'abord.
C'est au fait pour célébrer, bon, les manes de nos ancêtres. Ceux-là qui nous ont toujours accompagnés, qui ont accompagné nos ancêtres, nos arrière-parents. Et jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, je dirais que les Vodous sont loués, sont carrément adorés par certains. Il y a d'autres, carrément, c'est leur protecteur.
Studio Kalangu.
Suivez les programmes du Studio Kalangu
à Magaria
sur la radio Kitari
101.5 MHz,
à Zender
sur la radio Shukra FM
105.5 MHz,
à Tanout
sur la radio Damergou
99 MHz,
à Difa
sur la radio Amfani
100 MHz,
à Menosorowa
sur la radio Mangari
95.1 MHz,
à Ingigmi
sur la radio Dileram
99 MHz,
à Kabalewa
sur la radio Mambio
99 MHz. MHz
à Agadez,
sur la radio Nomade FM
101.9 MHz
et sur la radio Sahara
97 MHz
à Arlit,
sur la radio Ikokan
95.1 MHz
et sur la radio Kausen
94 MHz
à Tirozerine,
sur la radio Azuru
99 MHz.
Studio Kalangu.
Place à présent au magazine de ce journal, le Fonds de solidarité islamique pour le développement créé en 2005 au sein du groupe de la Banque islamique de développement a pour objectif de lutter contre la pauvreté dans les pays de l'Organisation pour la coopération islamique aussi. Au Niger, grâce aux efforts de cette institution, environ 2,6 millions d'enfants non scolarisés pourraient être inscrits à l'école d'ici 2030, a indiqué le directeur général du FSID dans un entretien exclusif à accordé au studio Kalangu. Dr Walid Al-Waheb, que je vous propose d'écouter.
Nous sommes ici pour appuyer le gouvernement nigérien, pour aider ce gouvernement-là dans les efforts de faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école.
Votre institution, en collaboration avec le gouvernement du Niger et plusieurs autres partenaires internationaux, ont décidé d'aider 2,6 millions d'enfants non scolarisés à aller à l'école d'ici 2030. Dites-nous, sur quelle base ces 2,6 millions d'enfants ont été ciblés?
L'attention a été portée vers des enfants qui sont en dehors du cadre scolaire et qui y sont dans de mauvaises conditions. Donc, en fait, l'essentiel de l'effort est porté vers la réduction de la pauvreté de façon générale. Hier, on a fait une sorte de revue par région en termes de nombre d'enfants déscolarisés. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que dans ces différentes régions-là, il y a des enfants qui sont là, qui sont justement dans ce cas précis. Et c'est la tranche d'âge, c'est une limite de 17 ans qui concerne essentiellement les enfants de l'école primaire.
Primary and elementary.
Par quel mécanisme vous comptez atteindre ces 2,6 millions d'enfants et qu'est-ce qui sera fait concrètement sur le terrain?
Donc, ce programme a quatre composantes essentielles, donc la construction des classes. Un des aspects les plus importants, c'est aussi la formation des enseignants, l'impression des manuels scolaires et donc du système de gestion de l'éducation.
Ce problème, ce n'est pas qu'ici au Niger, on sait que dans d'autres pays également, les enfants ne vont pas à l'école. Et est-ce qu'on peut avoir d'exemples d'autres pays dans lesquels vous avez intervenu et quel a été l'impact?
Bien sûr, ce problème d'éducation, c'est, comme vous l'avez si bien dit, hein, ce n'est pas seulement au Niger. Ça existe aussi dans d'autres pays, la sous-région, le Mali a été le premier pays à bénéficier de ce programme, mais c'est seulement hier que ça a été approuvé. Le financement n'a pas été totalement décaissé, donc ils vont bénéficier de cela.
It was approved yesterday.
Ici au Niger, on constate que la plupart des jeunes filles ne vont pas à l'école ou quittent même l'école avant la fin de leur étude. Quels sont vos plans à ce niveau?
Il faut reconnaître que les filles constituent, si vous voulez, une sorte de cible privilégiée, victime malheureuse de cette affaire-là d'éducation. Donc ça, c'est aussi un fait dont ils sont conscients et certainement que des efforts seront faits dans ce sens-là.
Et c'est sur cet entretien que nous a accordé le directeur général du Fonds de solidarité islamique pour le développement, Dr Walid Al-Waheb, que se referme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité au programme du Studio Kalangu. Ne quittez surtout pas. Je vous retrouve tout de suite pour le forum du Studio Kalangu qui a pour thème ce soir esclavage moderne. Quelles sont ses formes au Niger et comment l'expliquer?
Studio Kalangu.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et Studio Kalangu au rythme du Niger.